C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Premier sujet, c'est M. Legault, à peu près, d'ailleurs à cette heure-ci, qui l'a lancé hier, c'est-à-dire de demander à Hydro-Québec de faire des calculs, des études pour éventuellement construire des nouveaux barrages au Québec hydroélectrique pour faire face à la demande qui va augmenter avec l'électrification des transports. Est-ce que c'est une bonne idée? Nathalie?
Oui, moi j'ai envie de vous dire oui, c'est une bonne idée, mais ça dépend où et comment on s'y prendra. Plusieurs ont été étonnés de sa sortie, mais il faut se rappeler qu'en 2016, François Legault, qui était dans l'opposition, rêvait de faire du Québec, rêvait de réaliser une baie James du 21e siècle. Donc, si on se rappelle les engagements ou la priorité du premier ministre, qui est celle, entre autres, de réduire les écarts de richesse, l'écart de richesse avec l'Ontario, son obsession, effectivement, d'assurer une plus grande création d'emplois au Québec. C'est un peu compatible avec son ADN, le fait de construire des barrages. Maintenant, le discours qu'il a prononcé à Bécancour, c'est du copier-coller de ce que contient le plan stratégique d'Hydro-Québec jusqu'en 2026. Alors, cette volonté de faire de plus grands barrages au Québec, moi, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne idée, sauf que il faudra voir dans les faits comment ça pourra se matérialiser. Et c'est absolument fascinant de voir avec quelle vitesse les choses ont changé. 2019, on nageait dans les surplus au Québec, dans les surplus d'électricité. 2022, là, pour se rendre à la carboneutralité, c'est-à-dire en 2050, pour pouvoir prétendre vivre dans une société carboneutre, il faudra développer énormément d'électricité, d'hydroélectricité en particulier. On va le faire via les éoliennes, mais en particulier via l'hydroélectricité, via également l'économie et l'efficacité énergétique. Mais c'est bien qu'on en parle maintenant si on veut des barrages, parce que c'est vraiment très long entre le moment où on émet l'idée et le moment où le projet se concrétise.
Moi, je dirais choquant, mais pas surprenant. Pas surprenant parce que, effectivement, Nathalie, t'as raison, depuis 2016 qu'il dit qu'il veut faire ça. Et moi, j'ai toujours dit que c'est un castor. Hein. Absolument. J'avais appelé Hydro-Québec à l'époque, j'ai dit que c'est un castor, hein, Legault, il va faire des barrages. Non. Hey, j'ai parlé au directeur des relations publiques, j'ai parlé au directeur un directeur des relations corporatives. Ils m'ont tout garanti qu'il n'y avait aucun projet de barrage sur la table. Ça, c'était en 2016. Il y a 40 TWh de surplus. Éric Martel se promenait partout pour dire « Il y a 40 TWh de surplus, comprends-tu? Ça veut dire quoi? C'est le quart de toute la consommation des Québécois. » Mais Fitzgibbon, les deux mains en dessous de la couverte, il a travaillé, il a réussi à attirer beaucoup de producteurs de crypto-monnaies, de centres de données, d'industries. Puis là, la consommation des Québécois a beaucoup augmenté aussi, parce que la croissance pendant 10 ans, ça finit par faire augmenter la croissance. Il n'y a aucun programme d'économie d'énergie, comprends-tu? Puis il n'y a pas de contrôle avec les tarifs non plus. Donc, les 40 TWh ont fondu comme neige au soleil. Et c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient développer le Nord, développer les mines, développer la forêt, développer...
Bravo, moi j'applaudis.
Je connais quelqu'un qui a déposé un plan Nord, je comprends d'applaudir. mais pourquoi c'est choquant? Parce qu'Hydro-Québec était même pas présent. Tu sais, il a fait le coup que Bourassa a fait en 1976. En 76, quand Bourassa a développé la baie James, il a dit « Tassez-vous, Hydro-Québec, on fait la baie James. » Puis Hydro-Québec dit « Attends une minute, on n'a pas besoin de la baie James. » D'ailleurs, on était en surplus avec la baie James pendant des années. Aujourd'hui, on est bien content de l'avoir. Mais Bourassa, c'est peut-être la fois dans sa vie où il a fait preuve de plus de volontarisme. Puis là, mais c'est en 76. C'est quoi la différence entre 76 et 2022 à part des années? C'est l'environnement. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que les barrages de la baie James sont des barrages sans chute d'eau quasiment. Il n'y a pas d'hauteur. Il n'y a quasiment pas d'hauteur. Il n'y a pas des montagnes dans la baie James. C'est un territoire plat. Fait que pour contrer le fait qu'il n'y a pas d'hauteur de chute, si tu veux avoir de la puissance hydroélectrique, tu as besoin de hauteur de chute. Si tu n'as pas d'hauteur de chute, tu fais des immenses réservoirs. 175 000 km² ou je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle pas du chiffre précis.
Il y a 28 réservoirs au Québec.
C'est ça. C'est immense. Là. Ils ont noyé des territoires. En 2022, tu ne peux plus faire ça. Fait que c'est quoi ta deuxième option? C'est de trouver des rivières où il y a encore de la hauteur de chute. Les rivières où il y a encore de la hauteur de chute, il n'y en a pas tant que ça. Puis il y en a une en particulier, puis c'est Magpie. Puis Magpie, c'est la rivière qu'il faut protéger au Québec. Fait que Hydro-Québec n'est pas prêt pantoute à s'allonger, pour cette raison-là, puis pour d'autres que je veux dire après Nathalie, pantoute à s'allonger, à dire on va faire des barrages. Legault sort sa place publique. J'ai envoyé un courriel à Hydro-Québec, on fait des barrages.
Nathalie. Non, quand tu dis Hydro-Québec n'était pas là, c'est choquant. Excuse-moi, Luc, je veux juste te rappeler que la priorité, c'est la priorité du gouvernement, quelle que soit sa couleur, d'établir les grandes orientations sur le plan énergétique. C'est pas Hydro-Québec de dire on va faire telle affaire, on va aller dans l'éolien pour tant de mégawatts, on va aller dans les barrages pour tant de mégawatts.
Une petite chaise dans le coin de la conférence de presse, peut-être?
Non, mais écoute, on est encore... Brochu de faire de la politique, là.
Ben voilà, exactement.
Ça risqué un peu en campagne. En temps normal, t'as raison.
OK, correct.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de rivières nachées au Québec, mais il y a peut-être, tu parles de Magpie, ça ne se fera jamais parce que les Inuits sur la Côte-Nord ont déjà dit, effectivement, il n'y en est pas question. Il y a peut-être Petit Mécatina.
Je connais même pas. Toi, t'as connu-tu Petit Mécatina? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça.
Ben moi, j'en ai entendu parler lorsque j'étais aux ressources naturelles, parce que j'ai été ministre responsable d'Hydro-Québec à une certaine époque de ma vie. Mais au-delà de ça, ne précipitons rien. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on met déjà le projet dans la trappe, là, parce que tu condamnes déjà cette peut-être possibilité qu'on développe certains barrages, alors qu'Hydro-Québec n'a même pas encore évalué s'il y avait ou non une possibilité ou non de faisabilité.
Ben c'est ça, Nathalie, premièrement, oui? je ne condamne pas. Puis je vais juste dire...
Ça ressemble à quoi tu ne condamnes pas?
Ce moment-ci, là, quand je dis Hydro-Québec n'est pas dans la salle, c'est parce que Hydro-Québec a dit, oui, en 2050, il va falloir faire 100 TWh, mais d'ici 2030, il n'y a pas question de faire des barrages, puis on a assez d'énergie, puis en faisant...
Non, d'ici 2029, la demande d'électricité au Québec va augmenter de 12%. Oui, ça va nous prendre 20 TWh de plus. Pour 2050, 100 TWh de plus. Alors, c'est clair que ça en prend plus.
Okay,
la question,
point,
Luc, c'est
Nathalie.
Comment on le fait? Comment on le fait
pour
y arriver?
C'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 8 TWh d'économie d'énergie qu'on peut mettre sur la table. Il y a l'optimisation des centrales et des turbines, et un autre, je pense à peu près 10 TWh, je ne sais pas précisément, mais c'est dans ces eaux-là. Mm-hmm. Puis la troisième affaire, c'est l'éolienne avec 3000 mégawatts de puissance. Donc, si tu mets ces trois affaires-là ensemble, tu es correct pour un autre 10 ans. Et Mme Brochu n'avait pas parlé de barrage. C'est pour ça que je te dis, pourquoi elle n'a pas été invitée? Mais... C'est une image pour te dire, ni Mme Brochu, ni tous les experts de toutes les universités n'ont parlé de barrage. Personne, là.
Dans le plan stratégique d'Hydro-Québec, là, qu'on dit peut-être que, mais on le fait pas de façon affirmative. En fait, ce que je comprends de la part d'Hydro-Québec, les barrages, ça va être le dernier recours. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres options avant d'arriver à ça. La façon dont la nouvelle a été présentée hier, c'est comme si point de salut en dehors de nouveaux barrages. C'est pas ce que François Legault a dit. François Legault, ce qu'il a dit, c'est que ça pourrait être intéressant, peut-être, de développer certains autres barrages. Mais en même temps, il a dit, attention, faudra le faire avec les Premières Nations. Ça, c'est fondamental. L'autre chose, la Romaine. Prenons l'exemple de la Romaine sur la Côte-Nord. Entre le moment où le projet était déposé et le moment où la Romaine 4, c'est-à-dire le dernier grand chantier va être inauguré, il va s'être écoulé 18 ans. Alors, c'est bien que François Legault en parle maintenant parce qu'il faut planifier pour le futur. Si Jean Charest n'avait pas planifié la Romaine, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? On serait probablement dans le gros trou parce que grâce à la Romaine, ben, ça nous permet de vendre de l'électricité chez nos voisins du Massachusetts, chez nos voisins new-yorkais, chez nos voisins ontariens, chez nos voisins du Vermont. C'est extraordinaire. Alors, on vit sur une terre bénie des dieux. L'hydroélectricité, c'est l'énergie qui produit le moins de CO2. Il faut miser là-dessus, mais évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain à ce stade-ci. Des discussions, ma foi, parce que moi, j'entends ces experts-là, tous les experts-là, écoute, là, je dis, attends un instant.
C'est quand même
là,
leur job au quotidien, Nathalie.
Je suis d'accord, mais c'est toujours le même discours qu'on entend, tu comprends? Je constate, je sais que t'es fâché, là, je t'entends grogner de mon côté.
Non, j'avais mal aux pieds, je me suis coincé le pied entre deux chaises.
Il est très calme.
Écoute, c'est parce que souvent on dit barrage, ça va inonder des grandes surfaces. On est en 2022, Hydro-Québec a développé un savoir extraordinaire sur comment on fait des barrages, tout en respectant l'environnement et je dirais en minimisant les impacts sur l'environnement.
Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de pas faire des barrages dans les 20 dernières années, parce que ça ennoie trop de territoire. Mais le point, c'est
la Romaine, là.
On est en train de terminer un barrage de 8 TWh, puis là, Legault parle de 100 TWh. 100 TWh.
Pas un barrage,
regardez bien, là. Ça veut dire des lignes hydroélectriques dans toutes les Laurentides.
Non,
tout Charlevoix.
Hey, ça, c'est de la démagogie.
Non, Nathalie.
Oui, c'est de la démagogie. Oui.
Ah, tu vas faire des barrages sans lignes hydroélectriques?
Non, ce que je te dis, c'est que tu peux pas conclure que le 100 TWh qu'on a développé, ça va se traduire par 100 TWh de barrage. Voyons donc,
arrête.
Ça n'a pas
je
de bon sens
arrête.
Ce que tu dis.
Je vous arrête, ah ben, je vous arrête.
Excuse-moi, Paul, mais là, c'est faux.
Mais
non,
tu me mets des mots dans la bouche juste. Que je n'ai pas dit, Nathalie.
Voilà.
Ben, excuse-moi, là, je te mets pas des mots dans la bouche. Réagis à ce que tu dis, c'est pas pareil.
On s'arrête pour la pause.
Rassure-toi, là, on va prendre un petit
Je suis le maître zen autour de la table. Et au retour, on va parler de la fiscalité de Québec solidaire.
La commission Normando-Ferrandaise.
Même s'ils sont quand même pas très près du pouvoir, la proposition fiscale de Québec solidaire fait jaser, parce que c'est intéressant. Au moins, c'est une question on voit la différence, appelons ça idéologique. Alors, essentiellement, deux mesures sur les actifs de plus de 1 million. Et là, ce sont les actifs nets. Alors, propriété, voiture, REER, placement, taxes supplémentaires dès que ça dépasse 1 million, là, puis il y a une échelle qui a été établie. Et pour ce qui est des successions de plus de 1 million, c'est un impôt de 35 % Est-ce que Québec solidaire vise les bonnes cibles, Luc?
Je pense qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, dans la mesure où il y a eu un enrichissement phénoménal des possédants depuis 20 ans. Deux véhicules. Premièrement, la propriété. La propriété s'est envolée, là, je veux dire. Combien de personnes ont acheté une maison à 120 000 $ et qui vaut 800 000 aujourd'hui? Il n'y a eu aucun effort, là. Je veux dire, c'est juste lié à un gain immobilier. Et aussi, les propriétaires occupants, là, propriétaires occupants, les taux d'intérêt ont chuté à 1 % 2 % pendant combien d'années, je ne me rappelle plus. 12 ans. Puis, au moins plus que 10 ans, en tout cas. Puis, les loyers ont augmenté énormément. Fait que là, il y a de l'argent dans les poches. Puis d'ailleurs, il y a un rapport précis qui dit qu'il n'y a jamais eu autant d'écart au niveau du patrimoine. C'est-à-dire, au Québec, on est la société où il y a le moins d'écart entre les riches et les pauvres, mais entre le patrimoine des riches et le patrimoine des pauvres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écart. Donc, l'idée n'est pas mauvaise. D'autant plus qu'il y a beaucoup de riches qui ont dit l'idée n'est pas mauvaise. Il y a une gang de jeunes de Toronto qui était sortie en disant, écoutez, l'une d'autres, on a hérité c'était des gros héritages. Le plus petit, c'était 50 millions. Mais il y avait beaucoup de 100 puis 200 millions là-dedans. Imposez-nous quelque chose, là, parce que nous autres, l'argent nous sort par les oreilles, puis on veut contribuer à la société. Mais c'est les chiffres puis les moyens que je comprends pas. J'aurais aimé ça, voir la logique derrière ça. Un million, aujourd'hui, c'est un triplex. Si tu as un triplex mais un fonds de pension, ou si tu as un duplex mais un fonds de pension, tu dépasses largement un million. Fait que tu dépasses largement un million, on va dire, OK, c'est correct, on va en chercher un peu, mais 35
%? Ça, c'est pour la succession.
Pour la succession, c'est énorme. C'est gigantesque. Par ailleurs, je parlerai après Nathalie des tentatives qui ont été faites en Europe. Simon Tremblay disait, ouais, non, mais finalement, il y en a qui ont réussi. Non, finalement, il n'y en a pas qui ont réussi. La plupart des grosses fortunes font ceci. Ils mettent tous leurs actifs dans une entreprise qui leur loue. Donc, ta propriété, ta maison ne t'appartient pas, elle appartient à une entreprise qui te la loue, puis toi, tu l'occupes. Mais c'est pas vrai que les gens acceptent de se faire imposer aisément des actifs. Donc, il faut trouver des moyens. Et j'en ai des moyens à proposer.
Ah oui, il y en a qui vont trouver des fling-flang sur le plan fiscal, évidemment, pour éviter de payer tous ces impôts qu'on va leur réclamer. Mais bon, sur le fond, c'est toujours le même branding, la même marque, le même fonds de commerce pour Québec solidaire, les personnes qui étaient étonnées de ça. C'est vrai, Paul, tu as raison de parler de différences idéologiques marquées, parce que tous les autres partis politiques, ou presque, là, sauf le Parti québécois propose une baisse d'impôts, parfois substantielle comme le PCQ, mais c'est la première fois qu'un parti politique, durant cette campagne, va aussi loin. Moi, je suis sceptique. On dit on va imposer 5 % les plus riches du Québec qui vont rapporter dans les coffres du gouvernement plus de 2,65 milliards de dollars. Je trouve que c'est beaucoup. 2,6 milliards de dollars, ça, c'est tout le budget qu'on consacre aux services de garde dans une année. Alors, je trouve que c'est beaucoup. Sur les grandes fortunes, Luc, tu parlais d'un, par exemple, un propriétaire d'un immeuble à logement qui n'aurait pas d'hypothèque sur son immeuble. Mettons un immeuble qui vaut 1,5 million. Lui, il serait imposé sur l'impôt sur les grandes fortunes. J'appelle pas ça une grande fortune, mais avoir un bloc qui vaut 1,5 million, puis tu as passé ta vie à le payer, puis c'est ton fonds de pension. L'autre chose, on parle de régime de retraite actif également, qui ferait l'objet d'une attention sur le plan fiscal. Alors, honnêtement, Québec solidaire, je trouve que c'est facile. Ça relève davantage du slogan que de la faisabilité. Mais en même temps, au Québec, il faut se demander qui sont les ultra-riches, parce que là, sur l'impôt, sur les successions, on parle des ultra-riches. Moi, quand je fais une petite recherche, les ultra-riches au Québec, là, c'est la famille Saputo, Saputo, la famille Desbarrais, Alain Bouchard, c'est Pierre-Carl Péladeau qui ont des fortunes qui valent de presque 7 milliards, plus d'un milliard à 7 milliards de dollars. Alors, ces gens-là, probablement, sur le plan fiscal, font déjà leur part. Je dis pas qu'il faut pas trouver un moyen de réduire ces écarts de richesse, mais en même temps, il faut être réaliste. Puis ça, je pense pas que Québec solidaire l'est en ce moment avec une proposition comme celle-là.
Luc, il y a une étude qui a été faite, c'est les statistiques officielles même, et il y a une analyse qui a été faite de ces statistiques par un expert de l'Université de l'UQAM. Attendez, j'ai pas son nom, là, je vais le retrouver. Toujours est-il que c'était dans Le Devoir, un article de avril de 2021, donc c'est pas très vieux. Et il dit que, selon ses calculs, pour comprendre vraiment les actifs des Québécois, il faut quadrupler le nombre de ceux qui gagnent, qui sont les 0,1% les plus fortunés. Il faut multiplier par 14 ceux qui sont encore plus riches. Donc, les riches ont une capacité à cacher leurs actifs ou à les dissimuler dans des assurances, dans des fiducies. Donc, c'est pas évident, là, cette idée-là de dire on va juste aller chercher cet argent-là. Il est là, il est disponible, il suffit d'aller le chercher. Par contre...
Non, mais j'allais dire, non, mais depuis hier, là, je pensais à ça, là. Et je me dis, les vrais riches ont les moyens d'avoir des stratégies fiscales pour en payer le moins. La personne qui porte l'étiquette de millionnaire, parce que comme tu donnais l'exemple de duplex, puis je sais pas, une caisse de retraite, a pas les moyens de se payer des stratégies.
Ben c'est ça, lui, il va casquer.
Fait que là, tu sais, ça se peut que les empires financiers puissent se doter de structures pour en payer le moins possible, mais ça se peut que la personne qui a son duplex puis un petit revenu, il est coincé.
J'ai retrouvé le nom, oui, absolument.
C'est ça mon
bien, c'est clair. Bien, d'accord. J'ai retrouvé le nom du gars. C'est le directeur parlementaire du budget à Ottawa. C'est pas rien, là. Je veux dire, c'est un expert des experts des experts. C'est comme lui dit, voici la capacité de dissimulation de la richesse. Par contre, le fait que tu puisses acheter et vendre des maisons sans jamais être imposé, il suffit juste que tu l'aies habité un an et que tu aies décidé que ça soit ta résidence principale, ça, c'est une faille dans la loi. Ça, c'est une grosse, grosse faille.
Les flips.
L'immobilier a enrichi des gens énormément. Là. Il suffit que tu aies la maison pendant un an, c'est considéré ta résidence principale, tu la vends, tu ne paies aucun impôt, tu le refais sur la maison suivante.
Et après trois maisons, je pense que tu ne peux pas le faire à répétition là, pour vendre 14 maisons.
Je ne suis pas au courant pour la limite de nombre de maisons. Je n'ai jamais vu ça, mais en tout cas...
On peut poser la question aux auditeurs, mais je ne pense pas que tu peux le faire
bonne question. Sur plusieurs maisons. Mais déjà trois maisons. Là. Toujours est-il que... En France, à Paris, ils ont remplacé le gain en capital par une taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu paies une taxe. Si ta maison, tu l'as payée 100 000, tu vends 300 000, mais que c'est sur une période de 15 ans, tu ne paies pas la taxe. Si tu le fais en un an, tu paies une taxe sur la valeur ajoutée. Et cette taxe-là rapporte au moins autant d'argent que la taxe foncière. La taxe foncière est troisième. Tu sais, il y a une taxe sur le tourisme, une taxe sur la valeur ajoutée, puis la taxe foncière. Nous autres, c'est tout en taxe foncière. Fait que, oui, il y a des moyens de taxer certaines personnes qui ont fait des gains en capitaux. C'est possible de le faire.
Mais n'oublions pas les paradis fiscaux, parce que je disais qu'il y a une escouade spéciale qui a été créée à Revenu Québec. Là, entre 2017 et 2021, Revenu Québec a récupéré 2 milliards en impôts payés. Alors ça, c'est des gens, effectivement, qui utilisent toutes sortes de stratagèmes. Je parle pas, il y a les paradis fiscaux, là, mais au-delà de ça, il y a des gens tous les jours au Québec qui s'affairent, effectivement, à développer toutes sortes de procédés pour ne pas au moins payer d'impôts. Alors, il y en a pour qui c'est légal, d'autres non. Alors, je pense que ça, on faudrait pas minimiser continuer, en fait, de miser sur cette escouade de Revenu Québec. Oui. En terminant, on pense souvent que le Québec, c'est une province très, très riche. Hein. Il y a beaucoup de riches au Québec. Je regardais une petite le portrait des particuliers là, par tranche de revenus. Là. Ceux qui font 100 000 $ et plus au Québec, c'est 8,29% des 6,7 millions de contribuables au Québec. Fait qu'arrêtons de dire que le Québec nage dans l'argent puis c'est une province méga riche. Là.
Mais le pire, puis je donnais l'exemple à Luc tantôt pendant la pause, là, c'était un auditeur ce matin qui, je trouve, résume bien l'affaire. Il est propriétaire d'un immeuble dont l'hypothèque est payée, là, qui vaut, en tout cas l'évaluation, là, autour de 1 million, 1 million 2. En plus de ça, il y a un fonds de pension, des actifs d'à peu près 400-500 000. Mais ses revenus annuels... Tu comprends? Il fait pas 500 000 de revenus, là.
Ben non.
Alors, lui, c'est vrai qu'il a un patrimoine qui vaut cher, mais à part de profiter des loyers puis de sa maigre pension, Ben, lui, on va taxer son revenu, puis on va y rajouter une taxe.
Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé la propriété comme un véhicule d'enrichissement, puis que sont pas riches. Quand j'étais maire, le concierge de mon bureau, il y avait 3 maisons sur le plateau. Il parle ni français ni anglais, c'est un portugais.
Je ris parce que tu nous l'as déjà raconté, mais c'est le fun derrière.
Excuse-moi.
Mais non, mais vas-y.
Il y a 3 maisons sur le plateau. Il travaillait comme un maudit malade. C'est lui qui faisait la céramique, les réparations, les fenêtres. Il travaillait. Mais lui, il dépensait pas. C'était un gars qui dépensait. Il y a eu des groupes, souvent des immigrants, qui correspondent à ce profil-là, qui ont mis tout l'argent dans leur propriété parce qu'ils veulent faire, ils voulaient sortir leurs enfants de la misère. Et chez les Italiens, les Portugais, les Grecs, c'était beaucoup, beaucoup ça. La pierre, les Espagnols ont de même aussi. Puis, va falloir y regarder à 2 fois là, avant de les considérer comme des super riches.
Ben, il faudrait, mais c'est pas des super riches, excuse-moi, il faudrait les féliciter plutôt que les taxer. Puis comment tu fais la part des choses entre ces pauvres gens, je veux dire comme ça, qui en ont arraché puis qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied par rapport effectivement aux ultra-riches qui ont le moyen de se payer des fiscalistes et tout ce qui va avec pour éviter de payer de l'impôt.
Mais moi, arrose sur les flippeux, les flippeuses.
Merci, monsieur. Et madame, on vous retrouve demain.
C'est 23.